On surnomme Laure Gasparotto, spécialiste du vin depuis 20 ans, journaliste au Monde, la femme du train, parce qu'elle n'a jamais réussi à s'ancrer dans un lieu précis et que les événements ont fait d'elle une nomade. Il a bien fallu qu'elle accepte que sa vie soit ainsi. Quoique, un lien particulier l'attache à la Bourgogne. Un amour et une admiration indéfectibles la lient à cette région, ses vins, son terroir, son histoire et ses habitants. Je cite quelques phrases de « Si tu veux la paix, prépare le vin », quel beau titre, soit dit en passant. Mais ce sont bien les parfums de la Bourgogne, cette région qui se situe à la place du cœur sur la carte de France, les nuances bleutées enrichies de taches rosées de ses ciels, la pureté de ses pierres calcaires dressées en maison ou en muret, la profondeur de ses sols bruns, ses forêts à trompette de la mort, ou encore ces paysages doucement ondulés qui occupent chaque partie de mon corps. Il y a de la tendresse et de la générosité dans cette région dont les failles ont permis l'apparition des meilleurs vins du monde. Laure Gasparotto a découvert la Bourgogne, son asile, au début des années 1990, à travers les archives des maisons de négoce et a pu savourer à loisir les noms poétiques des vins avant de les boire. Dans son récit, l'auteur passe d'un siècle à l'autre avec grâce. Derrière les portes closes des monastères au XVe siècle, où bénédictins et cisterciens avaient érigé un empire autour du vin, au XXe siècle, en 1994, elle raconte ses vendanges au prestigieux domaine de la Romanée-Conti. Un souvenir bien évidemment inoubliable. Dans ce récit, elle parle aussi de la Bourgogne du XXIe siècle, forte et vulnérable à la fois, car il ne faudrait pas que la spéculation vienne tout gâcher. Laure Gasparotto fait aussi parler de formidables vignerons, des puristes, qui s'inquiètent des prix atteints par leur vin, de leur notoriété, qui n'a pas que du bon, de merveilleux vins achetés pour de mauvaises raisons. Ces dernières années, des milliardaires ont investi dans la région, succédant au duc de Bourgogne. Espérons qu'ils soient à l'écoute de leurs prédécesseurs et sachent préserver les hommes, les vins et les paysages de la fière et somptueuse Bourgogne. Ce livre raconte une histoire unique, passionnante de bout en bout, que l'on soit natif de la Bourgogne ou d'ailleurs, connaisseur en vin ou pas. Si tu veux, la paix prépare le vin est publié aux éditions Grasset. Bonjour Laure Gasparotto.
Bonjour Cécile, merci beaucoup pour ce résumé et cet avant-goût de ce livre. Je suis ravie que ça fasse un tel écho chez vous.
Expliquez-nous pour commencer ce que sont les climats dont vous parlez beaucoup dans votre livre.
Ah, les climats, c'est quelque chose que vous connaissez bien, j'imagine, puisque votre papa, Bernard Pivot, a été un des acteurs majeurs de la reconnaissance des climats de Bourgogne auprès de l'UNESCO. Les climats, ça n'a rien à voir avec la météo. Les climats, ce sont des bouts de terrain, des parcelles de terre qui ont été sculptées par les moines au Moyen-Âge, sculptées parce que reconnues comme productrice de vin, et que chaque parcelle de terre produit des goûts différents. Et c'est il n'y a qu'en Bourgogne qu'on est arrivé à une telle mosaïque de terroirs. Donc en fait, le climat, ça va beaucoup plus loin que le terroir. Le climat, c'est la terre donc, qui a été précisée, découpée, la qualité du sol, l'air qui va avec et aussi le savoir-faire humain. C'est tout cet amalgame. Le climat, c'est l'ensemble, l'homme qui a travaillé cette terre et qui en a et dont il résulte un goût spécial. Voilà, enfin c'est assez complexe en fait.
Comment le vin est-il né en Bourgogne ?
Alors le vin est né en Bourgogne comme partout ailleurs. D'abord, il existait même sous les Romains, hein, Augusto Dunum, qui a été créé avant, du temps d'Auguste. Parle déjà de 2 ou 3 siècles avant Jésus-Christ de vignes en Bourgogne, mais le vin tel que j'en parle dans mon livre, le vin, c'est-à-dire le vin culturel, il est apparu en Bourgogne sous les ducs de Bourgogne. Ce sont eux les premiers qui ont vraiment marqué un tournant dans l'histoire du vin, c'est-à-dire que avec eux, le vin passe d'un aliment hein, un élément culturel. Ce sont les premiers à voir que dans le vin, il y a une dimension esthétique, une dimension culturelle, une dimension sociale, une dimension politique, et donc une image dont les ducs savent se servir. Et il se trouve qu'au moment des ducs valois, la papauté est en Avignon, et donc les ducs sont très près du pape. Et grâce à leur vin, puisqu'à ce moment-là, quand même, le vin était aussi un élément, un ambassadeur très important, et aussi des vins de messe. Donc les ducs de Bourgogne, ce sont les premiers à comprendre toute cette dimension spirituelle et politique, et s'auto-proclament d'ailleurs même les grands ducs d'Occident, les grands ducs d'Occident, des vins d'Occident, voilà. Donc ce sont les ducs de Bourgogne qui ont inventé le vin de Bourgogne tel qu'on les connaît aujourd'hui. Ce sont eux les premiers qui ont interdit le gamay, par exemple, ce déloyal cépage, et au profit du pinot noir, le noble pinot, et qui ont érigé des édits. Donc, ils sont les premiers à vraiment définir la qualité du vin, à même commencer à définir ce qu'il deviendra plus tard des climats, puisque les climats apparaissent, le mot climat apparaît qu'au XVIe siècle. Mais ce sont eux qui commencent à comprendre les lieux-dits, l'importance des lieux-dits, l'importance d'un bout de terre qui donne un goût complètement différent du bout de terre qui est à côté. Et donc voilà, c'est cette naissance-là que je voulais raconter dans ce livre.
Et quel est le rôle des moines ?
Alors les moines, en fait, les moines ont participé à toute la dimension esthétique médiévale, parce que c'est un moment, ce Moyen-Âge est d'un raffinement extrême. Je veux parler de la musique, de la sculpture, de la peinture. Et les moines, en fait, c'était en agronomie qu'ils aussi excellaient. Et en tant qu'agronomes, ils sont allés à la recherche d'une esthétique. Et en fait, parce qu'ils étaient anonymes, parce qu'ils avaient aussi cette compréhension d'un temps qui dépasse leur propre temps humain, que donc les moines ont constitué des recherches qui se sont faites sur plusieurs générations. Et ils avaient des carnets, enfin ils notaient toutes leurs recherches agronomiques, dont les réponses pouvaient apparaître que 20 ou 30 ou 50 ans plus tard. Parce que quand on plante un cépage dans une terre donnée, on a la réponse de ce cépage que 20 ans plus tard. Et 20 ans plus tard, quand la vigne commence à donner, à faire des racines et à donner des raisins intéressants, en fait, l'épanouissement d'une vigne, c'est quand elle a une vieille vigne, c'est quand elle a 50, 60 ans. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très loin du moment où elle a été plantée et encore plus loin du moment où la décision de la plantation a été faite. Donc ces moines, en fait, ce qu'ils ont apporté à la Bourgogne, c'est leur absence d'ego. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est à la différence de cette recherche agronomique sur le temps, aujourd'hui, quand on veut apporter une solution agronomique, on la veut pour tout de suite. Et on veut la signer. Les vignerons d'aujourd'hui signent leur étiquette. Ils veulent absolument que leur réponse soit la bonne. Alors que les agronomes du Moyen-Âge pouvaient se tromper. Et donc, de génération en génération, ils apportaient les réponses. Et c'est comme ça qu'on a choisi pour le vin blanc de Bourgogne un cépage unique, le chardonnay, et pour le vin rouge de Bourgogne, un cépage unique, le pinot noir. Alors, ça paraît tout simple, mais moi, par exemple, j'ai été vigneronne dans le Languedoc, et je sais bien que quand on a, par exemple, 20 hectares de terre vierge, eh bien, on peut se poser des tas de questions, mais on a une trentaine de cépages qui pourraient nous être offerts. Mais si je choisis, par exemple, de planter du cinsault et que je me rends compte au bout de 15 ans que ce n'était pas le bon cépage sur le bon terroir, ben j'ai perdu 15 ans de ma vie. En fait, grâce aux moines de Bourgogne aujourd'hui, les vignerons de Bourgogne gagnent un temps fou sur leur propre vie. C'est-à-dire que quand on achète une terre à Meursault, eh bien, on plante du chardonnay et on ne se pose pas la question parce que d'autres avant nous ont répondu à cette question qui a mis tant de temps à y répondre. Et donc, c'est en cela que la Bourgogne est unique, c'est qu'elle permet un gain de temps aux vignerons qui la travaillent.
Vous écrivez en parlant des moines, « Dompter le vin, c'est aussi pour eux dompter le diable », c'est-à-dire...
Ah bon, j'ai écrit ça. En fait, le vin, il y a quelque chose de diabolique dans le vin. On le sait très bien. Il exige un équilibre humain très important parce que dans le vin, il y a à la fois l'esthétique et à la fois la perte de la raison. Et c'est en cela que en fait, oui, on dompte le diable et le bon Dieu avec le vin.
Vous avez créé un vrai défilé de mode, enfin un incroyable défilé de mode à partir d'une dégustation. Racontez-nous.
En fait, avant de connaître le vin de Bourgogne, j'ai été fascinée par les mots qu'on me communiquait autour des vins et j'ai trouvé que les mots pouvaient parler à tout le monde. Et j'ai imaginé, puisque en fait, c'est un langage, le vin, quand on le goûte, c'est un langage en soi. Parfois, quand je parle à un vigneron, il me dit, mais de toute façon, ce n'est pas moi qui vais vous donner la réponse. Goûtez mon vin, il vous apportera la réponse. Et donc, chaque vin a ses propres mots qu'on peut traduire par des formes, de la couture. Enfin, moi, ça m'a fait penser à de la couture. Et donc, dans les années 90, j'avais imaginé mettre en relation des créateurs de mode avec des producteurs de vin. Et c'est ce qui s'est passé. J'aime cette transversalité des arts. Mais mettre ensemble des mondes qui, a priori, n'ont rien à voir. Et vous savez, en fait, à la fin des années 90, quand je suis allée voir des vignerons et que je leur ai proposer ce projet, certains d'entre eux m'ont dit mais ça va pas. Enfin, aujourd'hui, quand je vous raconte ça, la robe du vin, ce qui était le nom de ce défilé de mode, ça paraît peut-être aller de soi parce qu'on a cassé beaucoup de codes anciens. Mais à la fin des années 90, c'était vraiment briser des codes de mêler la mode et le vin. Et donc, le château du Clos Vougeot nous avait accueillis pour des défilés de mode. Et notamment, Sonia Riquel était venue et même des gens de la Fédération française de la couleur. Il y avait Pierre Troisgros qui était venu. Enfin, voilà, j'avais mélangé la gastronomie, la mode, la couleur. Et c'était assez joyeux. Et au milieu de cette histoire de la cave, une des caves les plus anciennes des Cisterciens en Bourgogne, défilaient des mannequins avec des vraies robes qui exprimaient, je me souviens d'une robe d'un Saint-Aubin les Friones, premier cru, qui était interprétée par un jeune styliste avec une robe courte, jaune citron, affriolante. Et quand on voyait défiler cette robe, on pouvait vraiment imaginer en bouche ce que pouvait donner ce vin.
Ouais, moi, je trouve que c'était une idée formidable, en tout cas. Vous n'en avez fait qu'un ?
Non, on l'a fait 3 ou 4 années d'affilée. Oui, au château de Savigny-les-Beaunes et au château du Clos-Vougeot. Je crois que oui, il y en a eu 3 ou 4 entre 96 et 99 à peu près tous les ans. Oui.
Alors vous écrivez qu'en 1990, quand vous avez découvert la région, tout vous semblait simple et immuable. À partir de quand, selon vous, cette région a changé ? Comment a-t-elle changé ?
Alors c'est assez fascinant et j'ai une chance folle, c'est que je pense qu'elle a changé comme un peu le monde du vin en général dans les années 90. Au moment où l'œnologie a envahi les caves. C'est vraiment à ce moment-là que quelque chose, une homogénéisation, un peu une standardisation, a envahi le monde du vin. Et là, quelque chose est sorti d'une identité pour aller vers une mondialisation. Je dirais pas vers une universalité, mais vers une mondialisation. Au début des années 90, quand j'ai commencé à découvrir le vin, c'était assez fascinant parce que précisément, tous les climats avaient vraiment des goûts très définis et très reconnaissables pour quelqu'un qui commençait comme moi. Et on pouvait reconnaître à l'aveugle assez facilement un Volnay champan d'un pouce d'or, un meursault charme d'un... d'un boucher, par exemple. Enfin, vraiment, il y avait une définition très spéciale. Alors, cette définition existe encore chez des vignerons qui sont des esthètes et qui travaillent très précisément. Mais parce que les outils se sont généralisés, les mêmes outils se retrouvent d'une cave à l'autre. Il y a des modes d'emploi qui se sont généralisés, qui font que les goûts se sont un peu standardisés quand même. Et là on a vraiment, j'ai vraiment assisté à un changement. Mais pas qu'en Bourgogne, dans le Bordelais et dans le monde entier en général. Une Syrah du Rhône se reconnaissait entre toutes. Elle n'avait rien à voir avec une Syrah d'Australie. Aujourd'hui, les choses sont plus si évidentes.
La Bourgogne ne fait pas rêver uniquement pour ses saveurs, mais aussi pour son imaginaire et le monde qu'elle représente, écrivez-vous. Quel est cet imaginaire et quel monde représente-t-elle ?
Pour moi, la Bourgogne représente des racines. Des racines tellement profondes que tous les voyageurs peuvent y trouver un port d'attache. Et ce livre qui est sorti il y a peu de temps déjà, Si tu veux, la paix prépare le vin, j'ai déjà eu des lecteurs qui, comme moi, étaient des voyageurs et qui se sont arrêtés en Bourgogne pour acheter une maison, s'y installer. Et ils se sont retrouvés dans ce livre précisément parce que ils ont compris ce que représentait la Bourgogne pour moi, qui est vraiment la terre, une terre pour les exilés, une terre d'histoire si forte que elle est généreuse pour tous les voyageurs. C'est vraiment ce qu'elle m'apporte, ce qu'elle représente pour moi. Et je pense que aussi historiquement, puisque je suis de formation historienne, c'est ce qu'elle a toujours été. Les Burgondes étaient aussi des envahisseurs de passage qui se sont arrêtés là. Et la Bourgogne, en fait, elle est centrale en Europe. Si vous regardez une carte d'Europe, la Bourgogne est centrale. Et quand je me suis spécialisée en tant qu'historienne du Moyen-Âge de la Bourgogne, c'est aussi cela qui m'a fascinée. Je me souviens, je faisais des études d'histoire, et à un moment donné, il a fallu que je me spécialise. Et c'est mon maître d'histoire qui m'a dit, tu sais, tu devrais te spécialiser dans l'histoire de la Bourgogne et tu découvriras toute une communauté européenne d'historiens. Et alors, je n'en revenais pas, mais ça a été le cas. Il y a des historiens de l'Europe, européens, qui s'intéressent à la Bourgogne. Et d'ailleurs, ce titre dont « Si tu veux, la paix prépare le vin », en fait, c'est l'esprit du traité d'Arras de 1435. Et ce traité d'Arras, Arras à l'époque, était bourguignon, puisque la Bourgogne, elle est de la Savoie jusqu'en Flandre. Donc Arras, en terre de Bourgogne en 1435, à l'initiative du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, a eu lieu vraiment le premier congrès européen, 1435, le traité d'Arras, c'est le premier congrès européen où vient le roi de Pologne, les princes de toutes les cours, l'Angleterre, l'Autriche, enfin, l'Espagne, le Portugal, tout le monde est réuni, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui, avec leurs ambassades, les émissaires, qui arrivent en 1435 à Arras. Et en fait, cette Bourgogne était européenne et elle rayonne toujours comme ça pour moi aujourd'hui.
Parlez-nous de M. Aubert de Villaine, celui que vous surnommez l'homme du vin.
Aubert de Villaine incarne vraiment le vin de Bourgogne aujourd'hui, et pas que pour moi, hein, il l'incarne pour beaucoup. Il est le porte-parole de la Bourgogne. Il a été président des climats de Bourgogne qu'il a porté. C'est un homme qui l'incarne aussi parce que il est co-gérant de la Romanée-Conti. Enfin, il a été co-gérant jusqu'à l'année dernière de la Romanée-Conti pendant 50 ans. Aujourd'hui, c'est un de ses neveux qui a pris le relais. Mais pendant 50 ans à la tête de la Romanée-Conti, ça lui a donné du crédit pour incarner la Bourgogne, incarner la parole des vignerons. Et quand il prenait la parole, les bourguignons le suivaient. Enfin, si lui allait quelque part, les autres le suivaient. C'est vraiment le chef d'orchestre contemporain de la Bourgogne. Et c'est un personnage qui à la fois incarne l'histoire, le présent et le futur. Et il montre, il prouve que cette Bourgogne, elle n'est pas figée. C'est ce qui me plaît avec cette région, c'est qu'elle pourrait rester figée, être poussiéreuse, et pas du tout. En fait, elle se réinvente tout le temps. Elle, à la fois, elle est grâce à lui, il est gardien d'un certain temple, mais pas un temple poussiéreux. Il arrive à montrer que dans ce cadre, un cadre qui pourrait paraître restrictif pour beaucoup, en fait, dans ce cadre, l'homme peut avoir de la liberté. Et c'est ce que j'aime aussi, c'est que, en fait, ce n'est pas l'absence de cadre qui donne de la liberté aux hommes, mais le cadre peut leur donner beaucoup plus de liberté que ce qu'ils imaginent. J'ai des enfants, je leur ai transmis une religion, je leur ai transmis un baptême, mais libre à eux après d'être dans cette religion, de sortir de cette religion pour en prendre une autre. Mais je pense que je les rends plus libres en leur donnant un cadre plutôt que de ne pas du tout leur en donner. Parce que ils peuvent réagir en opposition. Et je pense que moi-même, en étant petite fille d'immigrée, j'ai eu trop de liberté parce que je n'ai pas eu de racines. Et quand je rencontre des gens comme Aubert de Villene qui ont hérité d'une famille avec un héritage spirituel aussi, pas qu'un héritage de matériel, je me suis confrontée et ils m'ont bien accueilli aussi pour ça. C'est parce qu'ils ont compris aussi que j'étais trop libre et que qu'ils m'ont un peu intégrée dans leur cadre pour me faire gagner du temps pour grandir. Parce que j'ai été absorbée dans leur cadre, j'ai pu grandir. Je pense que ça a été important dans ma vie de rencontrer ce cadre. Parce que trop de liberté fait perdre du temps.
Alors je vais lire un extrait de votre livre, page 104, une scène que j'ai absolument trouvée incroyable. Je lis. À 10h du matin, la pause casse-croûte dans la vigne s'imposait, avec saucisson et vin léger à peine rougi. Je ne sais pas si c'est toujours le même rituel aujourd'hui. Puis, on reprenait jusqu'à l'heure du déjeuner qu'on partageait tous dans un grand réfectoire au centre de Vosne-Romanée. Un soir, j'ai voulu aller voir ce que devenait la vendange. Je me suis rendue devant la cuverie dont la grille était fermée, mais je savais qu'il y avait du monde à l'intérieur. À l'entrée, j'ai demandé à Aubert si je pouvais rejoindre l'équipe de vinification. Sa réponse, qui était une question, a résonné longtemps en moi, tant elle était impensable. Avez-vous vos règles ? Même si, en 1994, nous n'étions plus dans la pensée magique du Moyen-Âge, pour le vigneron, une femme qui a ses règles risquait encore de faire tourner le vin en vinaigre, comme on le dit aussi pour une mayonnaise. Tellement surprise par cette intimité soudaine, j'ai répondu sagement par la négative quand de toute manière l'entrée me serait interdite, car Aubert a aussitôt répliqué d'un ton sans appel « Comme on ne peut pas vérifier, il vaut mieux éviter. » Témoin de la scène, Pamela, son épouse, qui passait par là, a cru bon d'ajouter pour me soutenir « Que ne feraient pas les hommes pour rester entre eux ?» Puis on en est resté là. Alors j'ai trouvé ça, mais stupéfiant qu'en 1994, en effet, où on n'est plus au Moyen-Âge, on dit ça encore, on vous pose cette question-là et qu'on vous interdise l'entrée, en fait.
En fait, dans les années 90, il y a encore, on parle encore de cuisse, d'un vin qui a de la cuisse, on a encore un langage très machiste. Et c'est vrai que ça paraît ahurissant aujourd'hui, et je pense que Aubert, qui, je sais, a lu le livre, mais qui ne m'a pas fait de retour, j'espère ne pas l'avoir vexé en racontant cette anecdote, mais je pense que même lui, c'était l'époque qui était comme ça, et aujourd'hui, ça paraît fou, parce que heureusement, on revient de très loin. Il y a encore énormément de choses à faire pour les femmes dans le monde du vin, mais quand même, quand on voit ce genre d'anecdotes, on se dit qu'on revient vraiment de loin. et qu'on n'emploie plus beaucoup de vocabulaire. Je n'entends plus qu'un vin est masculin, qu'un vin est féminin. Je l'entends de moins en moins. Peut-être même encore il y a 4-5 ans, ça va très très vite. Nos structures mentales bougent très très vite. Et je trouve que quand on étudie nos structures mentales à travers le vin, on se rend compte à quel point on va vite en fait. Parce qu'aujourd'hui, ça paraît impensable en effet, mais c'est pourtant vrai.
Donc la place des femmes dans le vin a beaucoup progressé, non ?
Alors, en effet, quand j'ai commencé à entrer dans cet univers, j'étais souvent la seule. Ça m'arrive encore d'être la seule dégustatrice autour d'une table, mais quand même de moins en moins. Aujourd'hui, il y a peut-être autant de femmes vinificatrices que d'hommes vinificateurs. Alors, il faut encore... Y a, en fait, maintenant, c'est dans l'ordre de l'infinitésimal que ça se passe. C'est au niveau de la vinification elle-même. C'est-à-dire que s'il y a un homme et une femme dans une cuverie en présence de décisions à faire sur le vin, par exemple, est-ce qu'il faut des cuvées ou pas ? Si l'homme la parole de l'homme va tendance à l'emporter sur la parole de la femme. C'est très difficile pour la femme qui est de l'ordre de l'intuition. Elle va dire oui, il faut des cuvées, mais elle va pas avoir les arguments. Elle va pas vouloir perdre de temps à expliquer. Elle a pas envie de justifier, alors que l'homme va prendre la parole. Et c'est la parole de l'homme qui va l'emporter souvent. Je dis ça parce que j'ai posé la question à beaucoup de femmes et que moi-même j'ai vinifié. D'ailleurs, plus avec des femmes, j'ai voulu plus avoir l'aide des femmes en cuverie que celle des hommes, parce que la parole de l'homme face à une décision du vin m'a déstabilisée. La parole de l'homme l'élaboration du vin est déstabilisante pour une femme. Et je ne peux pas vous l'expliquer, mais c'est encore le cas.
Votre livre est aussi, je trouve, une histoire de temps. Celui qu'on laisse à la terre, aux vignes, avant qu'elle offre un vin remarquable. Et aussi celui qu'il faut laisser à certains bourgognes avant de les boire, au grand désespoir de certains viticulteurs qui ont des clients qui manquent de patience et gâchent le vin qu'ils dégustent dans l'année, alors qu'il aurait montré ses pleines capacités 10 ans plus tard. Vous parlez beaucoup de ça aussi. C'est un vrai regret chez certains viticulteurs.
Mais boire trop jeune, le temps est un paramètre œnologique qui est négligé. Encore là récemment, j'ai dégusté des vins de 2020, 2021, même voire 2022, et dans des restaurants. Et au plus grand regret du vigneron, mais quand je dis au vigneron, mais pourquoi tu n'attends pas avant de vendre ton vin ? Il me dit, mais le problème, c'est que j'ai besoin de trésorerie et qu'on est pris dans une spirale. Et c'est une spirale financière où le banquier n'attend pas. Et donc, en fait, on ne peut plus avoir des capitaux qui reposent longtemps. Et ça, c'est vraiment dommage parce que le temps est nécessaire à l'accomplissement du vin. J'ai fait du vin et je sais exactement que c'est un paramètre œnologique, mais à part entière, c'est-à-dire un paramètre œnologique comme le raisin. C'est un ingrédient du vin, le temps, pour moi.
Quels sont les lieux que vous conseilleriez à quelqu'un qui visite la Bourgogne pour la première fois ?
Alors, ça va être tout à fait bateau, ce que je vais dire, mais il y a plus de 400 000 visiteurs chaque année. Mais pour moi, les Hospices de Beaune sont un grand lieu de la Bourgogne qui date de 1450 et quelques, je ne me rappelle plus, là, j'ai plus la date en tête, 1442 je crois. Enfin, en tout cas, c'est vraiment la première moitié du XVe siècle. C'est un établissement fait par le chancelier de Bourgogne, Nicolas Rollin. Et dans cet établissement, on a toute l'âme de la Bourgogne, tout l'esprit de la Bourgogne. Et aujourd'hui encore, si vous allez en Bourgogne le troisième week-end du mois de novembre, vous assisterez à la vente des vins des Hospices de Beaune, puisque les Hospices, c'est un hôpital qui est toujours en activité. D'un côté, il y a l'hôpital de Beaune. De l'autre côté, les anciens Hospices sont devenus un musée qu'on peut visiter. Et franchement, je le recommande. Et c'est encore vivant, parce que chaque année, il y a encore des donateurs des donateurs de forêts, d'immeubles et de vignes. Donc les Hospices de Beaune possèdent 60 hectares de vignobles qui vont de Chablis au Mâconnais. Et le fruit de ce vignoble sont vendus chaque troisième dimanche du mois de novembre. Et aujourd'hui même, on peut en acquérir avec ses amis, on peut acquérir un peu de vin des Hospices de Beaune. Donc ça rend vivant l'histoire, vraiment. S'il y a un lieu où aller, ce sont les Hospices de Beaune. En deuxième lieu, je dirais le château du Clos-Vougeot. Mais voilà, ça paraît bateau, mais pour moi, incontournable.
Qu'on peut visiter.
Qu'on peut visiter ouais. Tous les jours de l'année.
Laure Gasparotto, quel est votre plus grand souvenir de dégustation ?
Mon plus grand souvenir de dégustation, mais ce n'est pas avec un Bourgogne. Enfin, j'en ai plein en Bourgogne. Mais c'est avec un vieux vin. C'est avec une Mission Aubryon 55. Mais parce que, en fait, quand on attend longtemps, que ce soit... Et là, je voudrais vraiment rendre hommage aussi à Bordeaux, parce que ce n'est pas parce que j'ai écrit un vin sur la Bourgogne que ça m'oppose à Bordeaux. J'aime les grands vins. Ils sont en Bourgogne, mais ils sont aussi à Bordeaux. Et Mission Aubryon 55, pour moi, ça m'a tiré les larmes. Et là, je voudrais dire que j'aime passionnément la Bourgogne, mais j'aime passionnément les grands vins qu'on peut trouver aussi à Bordeaux.
Merci beaucoup, Laure Gasparotto. Vous voulez bien nous lire un extrait ?
Avec grand plaisir. Je vis quelque part parce qu'il le faut bien, mais en réalité, je n'habite nulle part. Ce sont les lieux qui m'habitent. À chaque fois que j'ai essayé de m'installer, de m'attacher à une maison, construire des meubles, harmoniser les tissus entre les fauteuils, les canapés, les coussins et les rideaux, pour créer un foyer le plus accueillant qui soit, les événements m'ont éloigné. Tous mes efforts pour m'ancrer dans un lieu précis se sont toujours soldés par un échec. Alors que j'entre dans la deuxième moitié de ma vie, je me suis fait une raison et j'accepte ce que je suis, une nomade, comme mes parents et les parents de mes parents. Le métier que j'ai choisi me convient parfaitement. Journaliste, je vis sur les routes, avec le sac léger. On dit de moi que je suis la femme du train, parce que je rencontre les gens entre deux gares. C'est un voyage professionnel en Espagne qui m'a rappelé qu'il existe en moi un lieu plus permanent que les autres. Alors que je me trouvais près de Barcelone, c'est la Bourgogne qui m'est apparue de manière fantastique, comme faisant partie de moi, où que j'aille. C'était après un déjeuner enchanté. Je me suis retrouvée dans la petite cour arborée du Celler de Can Roca, qui me permettait de profiter encore un peu de la magie que je venais de vivre. Dans le silence parfumé de restes de Havane, j'étais restée seule à attendre un taxi qui ne venait pas. Je cherchais à prolonger les saveurs de mon voyage dans ce quartier de Tayala, aux confins de Gérone, jusqu'à l'instant du départ. Soudain, je me rendis compte que j'allais partir sans avoir visité la cave de ce restaurant, élu plusieurs fois comme le meilleur du monde. Il était encore temps. Je quittais le confortable fauteuil de jardin et j'ouvris la lourde porte en bois du restaurant. Justement, Josep Roca, le sommelier, l'un des trois frères à l'origine de ce lieu qui faisait culminer au plus haut point l'expérience gastronomique, se trouvait dans l'entrée à discuter avec son équipe. Tous se tournèrent vers moi. « Pourriez-vous me présenter votre cave ?» demandai-je à l'homme mince, tout de noir vêtu, sans excuser mon interruption. Aussitôt, le visage de Josep s'illumina. Il dit quelques mots en catalan à son équipe qui se dispersa, puis se tourna vers moi. « Combien de temps avez-vous » m'interrogea-t-il, dans un français quasi sans accent. Je compris que j'aurais dû penser à découvrir sa cave plus tôt. Alors que je lui répondais, il ne perdit pas de temps et m'accompagna plein d'élan dans l'univers qu'il avait créé pour célébrer sa passion, le vin. Sa cave n'était pas enterrée, mais dans le prolongement des cuisines. Elle était composée de plusieurs chapelles, chacune consacrée à une variété de vins, comme les oxydatifs, les effervescents ou par région, tels la Moselle et la Bourgogne. Josep s'illuminait au fur et à mesure de la visite de son temple bâti au gré de ses pérégrinations et de ses rencontres dans les vignobles du monde. Dans cet ancien bar, créé par ses parents et porté au nu par ses deux frères, Joan et Jordi, et lui-même, dans cette maison qui les avait façonnés depuis leur enfance, Josep avait créé une mise en scène des sensations que le vin provoquait en lui. Dans la chapelle consacrée à la Bourgogne, il appuya sur un bouton invisible qui déclencha une musique de Bach et il me fit entrer dans l'âme du vin. Aussitôt, mon cœur se mit à battre plus fort. Je vibrais de tout mon corps. Au centre des centaines de bouteilles couchées, Meursault, Puligny-Montrachet, Pommard, Nuit-Saint-Georges ou autres Chambolle-Musigny qui côtoyaient des cartons encore fermés, le sommelier avait placé un grand récipient en chêne lourd, tel un autel. La Bourgogne est la seule région capable de mettre au beau milieu de la nature une porte avec une clé. Elle a organisé depuis longtemps ses paysages en fonction des goûts qu'ils font naître, me dit-il tout en faisant résonner des pierres calcaires sur le bois et en caressant le velours dans ses mains pour me faire comprendre toutes les sensations des Bourgognes. Pour lui, le vin se fait entendre, se touche, se célèbre avec poésie. Quand je le vis s'animer, pris entre histoire, science agronomique et mysticisme, j'oubliais tout du temps extérieur, je l'accompagnais dans cette Bourgogne éternelle qui avait été pour moi aussi une région à l'origine de tant d'inspiration. Dans son foyer espagnol, authentique et généreux, Joseph parlait un langage universel et s'adressait à tous. Même des enfants qui n'en boivent pas auraient pu voyager avec nous dans cet espace dédié à l'imaginaire du vin bourguignon, simplement en écoutant ce poète parler au rythme de Bach. Tel Joseph Roca, qui traduit à sa manière la Bourgogne loin de chez elle, je rends hommage à cette région qui m'a tant apporté et qui touche le cœur de tous les hommes et de toutes les femmes qui la croisent un jour sur leur chemin. Plus qu'un lieu défini, la Bourgogne s'érige en personnage historique, en modèle philosophique. Elle nous délivre des messages plus nécessaires que jamais à nous qui sommes devenus des êtres sans racines.
Alors, Laure Gasparotto, passons au questionnaire secret d'écriture. Votre mot préféré ?
J'aime bien le mot « arc-en-ciel ». Parce que il y a des traits d'union, parce qu'il y a le ciel, parce qu'il est long, parce que c'est de la poésie en soi. Voilà, j'aime ce mot.
Celui que vous détestez.
Je ne déteste pas un mot en particulier, mais par exemple, je pourrais dire en fait. Ce que je déteste, c'est la manière dont on utilise un mot sans s'en rendre compte. C'est des tics de langage. En fait. En fait, voici. Même super. Parfois, je me rends compte que je dis super à tout bout de champ ou je dis en fait à tout bout de champ. Parfois, on a des tics de langage. Donc, ce n'est pas un mot que je n'aime pas, c'est l'usage qu'on peut faire d'un mot de manière automatique.
Votre endroit préféré au monde ?
Toutes les cuisines du monde. La cuisine.
Votre dernière lecture ?
J'ai beaucoup aimé le dernier livre de Philippe Claudel qui s'appelle Crépuscule chez Stock parce que d'abord il y a une écriture extraordinaire qui m'emmène dans un monde à lui. Il recrée un univers dans lequel je suis emportée. C'est une géographie et un temps qui n'est qu'à lui. Et voilà, j'ai été transportée par cette lecture.
Votre prochaine lecture ?
J'ai très envie de lire le livre d'Alice Fehring qui s'appelle « Pour tomber amoureux, buvez ceci, mémoire d'une femme de vin ». Alors, c'est une journaliste new-yorkaise qui se consacre au vin depuis longtemps. C'est un peu mon alter ego de l'autre côté de l'Atlantique. Et je suis sûre que je vais me retrouver dans son livre. Voilà.
Quels sont vos moments privilégiés pour écrire ?
J'ai l'impression que j'écris tout le temps dans ma tête. Donc, alors, il y a le passage à l'acte de l'écriture, mais alors là, ça peut être n'importe quand. J'ai des enfants, donc c'est un peu dans le temps qu'il me reste. Mais sinon, j'ai l'impression que j'écris tout le temps dans ma tête. Assise dans le métro, dans un bus, quand je marche. Surtout quand je marche. Enfin voilà, j'écris sans cesse dans ma tête, en tout cas.
Pourquoi écrivez-vous ?
J'ai l'impression que c'est... Voilà, là. J'ai l'impression que c'est par peur de la mort. C'est pour rester. C'est pour que quelque chose ne m'échappe pas. Ou peut-être qu'on se souvienne de moi ou que je laisse quelque chose. Voilà, je le dis tout en franchise.
Où écrivez-vous ? Dans votre tête, on l'a bien compris, mais aussi ?
Alors, quand je passe à l'acte de l'écriture, parce que l'écriture est quand même une action, ça se passe souvent dans ma cuisine. C'est dans ma cuisine que j'écris. Ma fille peut cuisiner, faire de la pâtisserie à côté de moi, et j'aime que quelque chose se passe à côté et j'écris.
Écoutez-vous de la musique lorsque vous écrivez, et si oui, laquelle ?
Je préfère le silence pour écrire. La musique, en fait, quand je l'écoute, elle me prend, alors je ne peux pas écrire et écouter de la musique. Ceci dit, il y a quand même, quand je vois qu'il faut que je passe à l'action quand même de ma tête à la page, c'est de la guitare que j'écoute. Et j'aime bien écouter Stas Stone, qui est un compositeur de guitare. Et c'est une musique un peu mystique et qui peut m'accompagner dans le temps de mon écriture.
Luttez-vous contre la page blanche, et si oui, comment ?
Quand je me mets à écrire, c'est que vraiment c'est là, parce que j'ai déjà eu ma page blanche dans la tête. Donc c'est très rare que j'ai l'angoisse de la page blanche. Et si jamais je vois que je m'étais dit « tiens, il faut que j'écrive » et que vraiment rien ne vient, ben dans ce cas, je préfère fermer mon carnet ou mon ordinateur. Et parce que j'ai compris que ça sert à rien, je peux rester figée une heure devant mon ordinateur. Et là, la meilleure chose que j'ai à faire, c'est d'aller courir ou d'aller marcher et de revenir plus tard.
Contre quoi vous défendez-vous ?
Je me défends du moche. Je n'aime pas le moche. J'ai envie que tout soit beau, et même mettre la table, ça doit être beau. Enfin, je n'aime pas. J'aime que tout soit célébré, et même le tout petit présent.
Merci Laure Gasparotto d'avoir participé à Secret d'écriture. Je rappelle le titre de votre récit, « Si tu veux la paix, prépare le vin » aux éditions Grasset.
Merci beaucoup, ça m'a fait beaucoup plaisir de participer à cet échange.
Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute. Pour découvrir les nouveaux coups de cœur de la rédaction et d'autres secrets d'écriture, rendez-vous en kiosque et sur le site de femmesactuelles.fr. À bientôt !